qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens, de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Et te demandons maintenant de conduire notre frère Christian, de lui donner les paroles dont nous avons besoin. Seigneur, que ton esprit puisse ouvrir nos cœurs et que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner. Amen.
Bonjour à tous. Je vais vous faire une confession. J'espère que ma voix ne va pas me lâcher. Je disais, je dois vous faire une confession. En venant ici, j'avais des scrupules, j'avais certaines questions. Je me posais à propos de cette prédication. Je me disais, est-ce que cette prédication est vraiment adaptée aux gens que je vais rencontrer ce matin? Parce que dans cette prédication, il est question de Jean-Baptiste, il est question de Jésus. Vous savez, ces deux hommes, ils étaient dans leur trentaine. Quand on a 30 ans, on vit certaines choses que quand on a 2 fois 30 ans ou quand on a 3 fois 30 ans, on vit plus de la même manière. Et alors je me disais, il ne faudrait pas que ce message paraisse complètement inadapté au public auquel il s'adresse. Mais vous êtes jeune de cœur. Et l'évangile, ça maintient jeune. Donc, comme disait Paul, si notre corps s'affaiblit, comment il dit ça? Notre foi se fortifie de jour en jour. Et donc, j'espère que si certaines choses qui sont dites au cours de ce message ne s'appliquent pas exactement à vous, que vous pourrez prier avec intelligence et force pour ceux à qui ou pour qui ça s'applique, des gens plus jeunes que vous. Ça vous va comme ça? On peut y aller? Ok, d'accord. Jean-Paul a déjà prié, mais je suis frustré, je voudrais prier aussi. Je suis un croyant aussi. Seigneur Père, nous te remercions, nous sommes reconnaissants. Tu es vivant au milieu de nous et tu vas nous parler selon ce que nous sommes et nos besoins et ce que tu veux encore accomplir avec nous et en nous. Merci. Amen. On a tous une histoire qui nous colle à la peau et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est une histoire qui a une dimension familiale, peut avoir une dimension personnelle, évidemment, une dimension nationale, on est suisse ou on est autre chose, et puis qui a aussi une dimension spirituelle. Et la question qui peut se poser à nous, c'est est-ce que je vais simplement être le produit de cette histoire qu'on raconte à mon sujet? Et je dirais, la réponse à cette question, c'est elle dépend de comment on va répondre aux accusations et aux reproches qui peuvent nous être faits à cause de notre histoire. Alors, peut-être que cette introduction vous paraît un petit peu obscure, mais vous allez voir, ça, je crois que ça va s'éclairer. Pour Jean-Baptiste, le poids de l'histoire était énorme pour lui. On se rend pas compte de ça, mais le poids était énorme. Il est né au sein d'un peuple qui a été libéré de 430 ans d'esclavage en Égypte par Moïse. Ensuite, il a passé 40 ans dans le désert, 40 ans qui était un temps d'errance, mais aussi un temps de discipline spirituelle. Et puis après ces 40 ans, Josué a entraîné ce peuple dans une conquête partielle du pays de Canaan. Et Josué, à peine mort, les Israélites ont oublié leur Dieu. Et voilà que les peuples voisins ont commencé de les attaquer, de leur faire toutes sortes de misères. Et par compassion, Dieu leur a envoyé des juges et puis des rois pour les conduire. Mais malgré cela, jamais le peuple d'Israël a connu une période prolongée de paix, de véritable stabilité dans sa relation avec son Dieu. C'est comme si le peuple souffrait d'une sorte d'incapacité chronique à être fidèle à son Dieu. Et ça a amené des drames absolument terribles sur le peuple d'Israël. En 722, les Assyriens ont déporté l'essentiel de la population des 10 tribus du Nord, qu'ils ont remplacées par des païens, ce qui a donné les Samaritains plus tard. Dans les années 597 à 582, pendant une période de 15 ans, les Babyloniens ont organisé 3 déportations de la population de Juda jusqu'à Babylone. C'est 70 ans plus tard que Cyrus, l'empereur médo-perse, a autorisé les hommes de Juda, ceux qui voulaient, à retourner chez eux. C'est comme ça que 40 000 déportés ont décidé de revenir à Jérusalem et à Juda, conduits par Zorobabel, leur chef, et par Josué, leur grand prêtre. Et là, avec beaucoup de peine, et surtout avec le soutien du prophète Agé et Zacharie, ils ont reconstruit le temple avec toutes sortes de difficultés dont vous vous souvenez certainement. Et environ 60 ans plus tard, Néhémie lui-même est venu en personne à Jérusalem pour restaurer le système défensif de la ville, c'est-à-dire reconstruire les murailles là où elles étaient endommagées, reconstruire les portes, etc. Donner une sécurité à Jérusalem. Et là encore, on voit Esdras avait appelé les personnes qui vivaient à Jérusalem et en Juda à se réformer dans certains domaines. Néhémie fait exactement la même chose. Il demande aux Israélites de renoncer aux femmes étrangères et de renoncer à exploiter les pauvres, etc. Il s'absente quelques années, tout le travail est à refaire. Ce peuple fait preuve d'une infidélité exaspérante, si on se met à la place de Dieu. Et pourtant, il y a une lueur d'espoir qui reste. Il y a une lueur d'espoir. Parce que les prophètes, depuis le premier, Abdias, 9 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'au dernier, Malachi, 5 siècles avant Jésus-Christ, pratiquement tous ont annoncé que Dieu enverrait en Israël un descendant de David qui les libérerait de toute oppression. Seulement, quelle a été l'expérience des Israélites ou des gens qui vivaient encore en Juda? après avoir été dominés par les Babyloniens, puis par les Perses, puis par les Grecs. Maintenant, ils sont sous domination romaine. Super, la promesse. Super. Et tout cela aurait pu faire de Jean-Baptiste un homme désabusé, franchement amer. Où est la promesse de Dieu? Mais en fait, au lieu de se lamenter, eh bien, Jean-Baptiste a accepté de faire ce que Dieu lui demandait. Et c'est ainsi qu'un jour, comme le dit Matthieu, au temps où Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Jean-Baptiste s'est levé et il s'est mis à prêcher dans le désert de Judée. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste fait en quelque sorte son entrée en scène et qu'il va contribuer à changer le cours de l'histoire de son peuple. Probablement que lui, il n'a pas imaginé les choses en aussi grand, mais c'est en fait ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que Jésus dit de lui, c'est le plus grand des prophètes. Dès qu'il se met à prêcher, son message envoie une onde de choc dans tout le territoire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Changez !» C'est-à-dire « Repentez-vous, repentez-vous !» Parce que le terme grec, c'est « metaionete », c'est un impératif deuxième personne du pluriel. « Repentez-vous !» Abandonnez votre vie sans Dieu. Revenez à Dieu. Car le règne des cieux est proche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de demander à vos enfants de changer dans certains domaines. Avec quel succès? En tout cas, nous, on expérimente que le succès ne vient pas facilement. Mais là, Jean-Baptiste, il ne s'adresse pas juste à quelques membres de sa famille, il s'adresse à tout un peuple qui, en plus, a la réputation d'avoir le cou raide. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas du tout convaincre facilement. Alors, comment expliquer que ce peuple ait pris au sérieux son appel? Comment sait-il que, comme le dit Matthieu, on venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain? Eh bien, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier dans la prédication de Jean-Baptiste et dans sa personne. Et c'est ce qui apparaît dans le texte qu'on vient de lire. Et on va un petit peu énumérer dans le détail ce que sont ces caractéristiques particulières. D'abord, il y a le motif de sa prédication. Il ne se contente pas de crier « Repentez-vous !» Il explique pourquoi. Ça, c'est déjà bien d'expliquer pourquoi. Et il peut dire à cette foule avec beaucoup d'assurance que tous ceux qui sont venus se baptiser, le règne des cieux s'est approché de nous. Et le règne des cieux, c'est ce règne d'amour et de justice que Jésus veut établir parmi son peuple. Et Jean-Baptiste dit en quelque sorte aux Israélites, mais alors si Dieu s'est approché de nous, mais alors qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça nécessite de notre part? Ça nécessite que nous changions, car ce Dieu ne peut pas venir parmi nous et sans que nous nous préparions à le recevoir et que nous changions, que nous fassions ce qui est nécessaire pour que lui trouve des cœurs préparés à le recevoir. Donc Jean-Baptiste, il donne un espoir au peuple en montrant sur quel chemin il faut marcher pour que ça devienne une réalité. Ça, c'est le motif de sa prédication. Mais il y a aussi quelque chose que Matthieu rappelle lui-même, c'est que la venue de Jean-Baptiste avait été annoncée longtemps à l'avance, puisque Matthieu dit dans son évangile qu'il a écrit quelques années plus tard, je ne sais pas exactement, peut-être 10, 15 ans plus tard, il dit « Ces gens que le prophète Ésaïe a annoncés lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Donc Matthieu, en tout cas, il a compris, il a fait le lien entre les choses. Et en fait, vous savez que Jésus dira plus tard, à propos de Jean-Baptiste, « C'est lui l'Élie qui devait venir. » C'était un nom codé, un nom de code pour Jean-Baptiste. Élie, dans les prophéties faites à son sujet. En tout cas, même si les gens ne savaient pas que Ésaïe avait fait cette prophétie à propos de Jean-Baptiste, une chose pour eux qui était très claire, parce qu'ils voyaient comment la vie de Jean-Baptiste était en accord avec sa prédication. Pour eux, c'était très clair. Jean-Baptiste, c'est un vrai prophète. Et s'il dit qu'il faut se repentir de ses péchés et se faire baptiser pour cela, il faut qu'on le fasse. Il a eu cette force de persuasion. Dieu lui a donné cette force de persuasion sur le peuple. Mais il y a d'autres aspects qui ont fait que Jean-Baptiste a eu cette crédibilité auprès du peuple. Il y a l'endroit où il a choisi de prêcher. Où est-ce qu'il prêche? Il prêche près du Jourdain. Il est loin du bruit, de toutes les disputes qui se vivent et se font à Jérusalem. Il a choisi le Jourdain plutôt que le temple ou une piscine de Jérusalem où il aurait pu baptiser les gens. Il a choisi le Jourdain, pas seulement à cause de l'eau pour baptiser, mais aussi pour soustraire cette population à l'influence toxique des pharisiens les pharisiens exerçaient une grande influence. Ils avaient une sorte d'autorité sur le peuple. Ils étaient reconnus comme des maîtres. Et cette influence était en fait négative dans beaucoup de circonstances. Il les entraîne à l'écart de leur centre religieux traditionnel pour qu'ils puissent entendre Dieu leur parler. Et au fond, en faisant cela, Jean-Baptiste, il prépare le peuple à un bouleversement tellement profond. Il les prépare à ce bouleversement profond qui va pas venir du temple, mais qui va venir de celui qui est plus grand que le temple. Il y a un autre aspect de la prédication de Jean-Baptiste qui marque la foule. C'est que la foule, elle a bien remarqué le genre d'homme que Jean-Baptiste était. Matthieu nous dit, Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Son vêtement, poil de chameau, c'était le vêtement des pauvres. Sa ceinture de cuir, son régime alimentaire, ça n'avait pas de quoi faire de lui un homme très impressionnant. Et quand les pharisiens et les sadducéens arrivaient dans leurs beaux costumes, ils devaient faire pâle figure à côté d'eux. Et c'est peut-être aussi à cause de cela, et probablement surtout en partie à cause de son message, que, comme dit Jésus, ils l'ont traité comme ils ont voulu. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait pas cas de lui. Ils ne l'ont pas pris au sérieux, un certain nombre d'entre eux parmi les pharisiens. Et pourtant, c'est lui que la foule veut écouter. Vous voyez, pour les besoins de la mission que Dieu lui a confiée, Jean-Baptiste a accepté de renoncer au confort d'une vie en ville. C'est plus commode de vivre en ville, sauf si vous n'aimez pas le bruit. Mais voilà, il y a bien des commodités, il y a bien des avantages. Il portait un vêtement de, on a vu comment il se vêtait. Il a accepté une vie rustique dans une région éloignée, isolée de la foule. Et il a accepté tout cela pour être libre de brûler pour Dieu, pour de vivre pleinement ce qu'il avait à faire pour Dieu sans aucune distraction. Alors Dieu n'appelle pas tout le monde à vivre dans le désert, à porter des vêtements en poil de chameau, d'abord ça gratte, à se nourrir de cigales et de grillons avec un peu de miel, parce que ça, il y a probablement peu d'entre nous qui le supporteraient. Donc Dieu n'appelle pas tout le monde à faire ce genre de choses. Mais ce qu'on peut demander à Dieu, c'est « donne-nous la passion de Jean-Baptiste ». Donne-nous son zèle pour toi, sa force dans le témoignage qu'il rendait au royaume de Dieu qui était là, qui s'annonçait. Il y a une autre raison qui fait de Jean-Baptiste un peu un exemple remarquable pour nous. Il ose attaquer un fléau qui nous menace tous. Lorsqu'il voit un grand nombre de Sadducéens, de pharisiens venir pour se faire baptiser, il ne leur dit pas « Je suis très honoré de vous voir. Bienvenue sur les bords du Jourdain. Je suis très honoré que vous veniez vous faire baptiser. » Il leur dit « Espèce de vipère !» C'est-à-dire, c'est comme s'il leur disait « Sale type, méchant, fourbe, qu'est-ce que vous faites là ?» Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Les pharisiens, ils savaient très bien qu'un jour le jugement de Dieu viendrait sur les hommes. Et ils ont bien noté que le peuple considère que Jean-Baptiste est un véritable prophète. Et alors, pour ne pas se laisser en quelque sorte distancer par les gens du peuple qui se font baptiser, ils viennent eux aussi se faire baptiser. Pour pouvoir dire en quelque sorte à tout le monde et à Dieu peut-être en particulier, tu vois, tu as envoyé ton prophète Jean-Baptiste, nous avons reconnu son ministère, nous nous sommes fait baptiser par lui et nous sommes donc en règle avec toi. Mais Jean-Baptiste, il se laisse pas du tout duper. En fait, il dénonce publiquement, et c'est là qu'il faut du courage. Il a rien à perdre. Il dénonce publiquement leur calcul de faux monnayeurs, si on peut dire les choses comme ça. Il leur dit, verset 8, « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, « Nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham. » Car regardez, c'est Pierre. Je vous déclare que Dieu peut faire de ses enfants, peut en faire des enfants d'Abraham. La priorité des pharisiens, pharisiens ça veut dire séparés entre parenthèses, hein, séparés des impurs. Leur priorité c'était justement de maintenir leur pureté rituelle. Et comme ils le faisaient assidûment, ils se considèrent irréprochables. Ce qui leur permet de mépriser les publicans, de mépriser les pécheurs, de mépriser les païens, etc. Ils sont au-dessus de tout le monde. Seulement, le problème pour eux, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à leur pureté rituelle. Il s'intéresse à leur cœur. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste les met en garde contre l'hypocrisie absolument horrible de faire semblant de se repentir de son péché en se faisant baptiser. C'est terrible. Et Jésus sait ce qui sait, que c'est arrivé, et qu'il y avait parmi ces pharisiens des gens qui se faisaient baptiser, mais qui ne croyaient pas en ce que faisait Jean-Baptiste. Et ça, c'est une situation absolument catastrophique du point de vue spirituel. Dans ce passage, Jean-Baptiste, il dénonce les erreurs de raisonnement des pharisiens. Les pharisiens qui se disent « Nous sommes de la descendance d'Abraham. Par conséquent, la bénédiction d'Abraham est sur nous. Nous habitons dans le pays promis. Nous avons de surcroît la loi. » Qui parmi les gens qui nous entourent connaissent et observent la loi mieux que nous? Par conséquent, en réalité, nous n'avons pas vraiment besoin de nous repentir. Vous voyez l'aveuglement terrible dans lequel ils se trouvent. Et Jean-Baptiste leur dit, probablement à propos de la foule, il leur dit, Dieu est capable de faire de ces pierres, vous qui regardez ces gens comme des pierres sur le chemin, vous qui les méprisez, Dieu est capable de faire de ces gens des enfants d'Abraham, s'ils ont la foi. Il y a un dernier point que Matthieu évoque, et qui est probablement le plus important de tous, concernant Jean-Baptiste, il annonce aux Juifs que celui qui vient après lui va faire un tri Il va faire un tri parmi le peuple. Verset 10, attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que c'est que cette hache qui est déjà posée à la racine des arbres? C'est la parole de Jésus. Cette parole que Jésus prononce, par exemple, dans le sermon sur la montagne, où il dit, vous avez entendu qu'il a été dit par la tradition, mais moi je vous dis, et il donne le sens véritable de la loi. Dans cette parole affûtée que Jésus prononce, il attaque les fausses croyances, les traditions, etc., tout ce qui rend les Israélites moralement stériles. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus est en train de dire, tous seront jugés. Entre parenthèses, je serai jugé. Nous serons jugés. Sur ce que notre vie a produit de bon, et non pas sur notre confession de foi. Et Jean-Baptiste annonce un changement d'âge, un changement d'époque. Moi, je vous baptise d'eau en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. Je ne suis pas digne d'être son serviteur, son esclave. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Vous voyez, Jean-Baptiste, il opère comme un passeur. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des passeurs, des gens qui font franchir à des migrants des frontières. Il agit un peu comme un passeur, parce que il a amené les Israélites à travers sa prédication et la pratique du baptême, il a amené les Israélites jusqu'aux portes du royaume, pour que les Israélites puissent rencontrer celui qui est le roi. Et ce que Jean-Baptiste dit, c'est que ceux qui croiront au Messie, dont il annonce l'arrivée, ils seront remplis de l'Esprit, ils seront baptisés de l'Esprit et de feu. L'Esprit étant la marque identifiant une personne au royaume de Dieu, et le feu étant l'image de la puissance purificatrice de cet Esprit. Et il n'hésite pas à dire, quant à ceux qui refuseront de se repentir, de croire. Et là, vous pouvez penser à vos proches, à des membres de votre famille, à des voisins, tous ceux qui refuseront de croire seront jetés dans le feu du jugement éternel, dans le feu d'un jugement éternel. On a franchement besoin de se remémorer cette réalité. C'est pas anodin que les gens restent dans l'incrédulité. C'est grave pour eux. C'est grave. Et il faut que nous gardions dans notre cœur ce sens de la gravité de leur situation. C'est très difficile. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin que Dieu resensibilise notre cœur. Pas pour que nous allions harceler les gens, mais pour que nous prions, pour que nous ayons un type de relation avec eux qui les prédispose à s'ouvrir au roi. Voyez, Jésus confirme, plutôt Jean-Baptiste confirme, verset 12, à propos de Jésus, il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, ce qui entoure le grain, la balle qui ne produit rien, aucun fruit, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Ça, c'est l'enfer. Comme dit Paul, ils auront une ruine éternelle, loin de la face et de la gloire de Dieu. Une ruine éternelle, c'est plus que nous pouvons imaginer. Mais néanmoins, ça nous montre que vraiment, il faut qu'on reste sensible à ceux qui vivent sans espérance et sans Dieu dans le monde, pour qu'on ne soit pas cause de leur perte. Au début de cette méditation, donc j'ai fait allusion au poids de l'histoire d'Israël. Il pesait sur Jean-Baptiste. Une histoire, ou plutôt l'histoire d'un peuple qui n'a jamais réussi à entretenir une relation durable avec son Dieu. 2000 ans plus tard, c'est-à-dire 2000 ans plus tard, c'est nous, c'est aujourd'hui, c'est notre tour d'annoncer à nos contemporains que le royaume est là. Le royaume est là. Il est visible, ceux qui ont des yeux. Et la porte est ouverte pour ceux qui n'y sont pas encore entrés. Simplement que dès qu'on comprend cela, on découvre que nous aussi, nous portons un poids, le poids de l'histoire sur nous. Quel poids ? Le poids de l'histoire de 20 siècles de vie d'Église, d'une Église qui a eu des commencements très modestes, puis qui, lors des 3-4 premiers siècles, s'est développée d'une manière extraordinaire, mais une Église qui a commencé à persécuter les chrétiens, quand le christianisme est devenu religion de l'Empire romain, une Église qui a pris goût au pouvoir à partir du 10-11e siècle, une Église qui s'est engagée dans 2 siècles de croisades, il y a eu 9 croisades, une Église qui, au XVIIe siècle, a participé à l'entreprise coloniale, une Église qui a manqué de courage au temps de l'Allemagne nazie, et puis certains aujourd'hui alors diraient l'Église, ah, c'est un repère de prédateurs, c'est un repère d'abuseurs, parce que c'est ce que les journaux nous disent de l'Église. Alors, ça c'est le poids de l'histoire sur nous. Et on se dit, mais alors est-ce que je peux encore parler de Jésus qui a donné naissance à l'Église ? Qu'est-ce qu'on doit faire face à ces aspects accablants de l'histoire de l'Église? Il y a une chose qu'on doit absolument faire. Il faut absolument reconnaître qu'il est arrivé souvent à l'Église de trahir Jésus et de trahir la mission que Jésus lui a donnée. C'est absolument indispensable. Je vous donne un court témoignage. Il y a la semaine dernière, j'étais avec un groupe qui faisait de l'évangélisation. Et puis, il y avait un grand gaillard qui était là, avec sa canette de bière. Et puis, un collègue a parlé avec lui, un frère a parlé avec lui. Puis après, les autres sont partis, il est resté avec moi. Il m'a dit, tu sais, Christian, il y a quelque chose qui me déçoit terriblement dans l'Église. C'est que quand les marginaux, ils entrent dans l'Église, ils sont regardés de travers, ils sont regardés de haut, on les accueille pas, on les aide pas. Je lui ai dit, Samuel, c'est vrai. C'est souvent vrai. Je suis désolé. Mais c'est souvent vrai. Et il a continué, il a dit, mais tu sais, moi je crois que la question de Jésus c'est acquis pour moi. Mais j'ai encore 2-3 petits problèmes dans ma vie. Est-ce que tu penses que je suis OK? J'ai dit, mais on a tous quelques problèmes non résolus. Tous les chrétiens, ils ont des problèmes non résolus. Il m'a dit, ah ouais, c'est comme ça. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, ah, tu peux pas te rendre compte ce que tu dis, combien ça me fait du bien. Parce que lui, il avait probablement cette idée, les chrétiens doivent être au top, ils sont parfaits, il n'y a aucune tâche sur eux. Et puis, ce qu'il voyait, c'était pas le cas. Et si lui-même est chrétien, si la question de Jésus est acquise, comme il dit pour lui, ben, il a les deux, trois petits problèmes aussi à régler. Et il faut qu'il travaille, il faut qu'il cherche l'aide de Dieu dont il a besoin. Mais c'est pour vous dire, il ne faut pas essayer de justifier l'Église, dire non, non, oui, mais ça c'était le passé. Non, il faut dire oui, il y a eu des choses malheureuses. Mais pour être juste, il ne faut pas simplement reconnaître, il ne faut pas simplement reconnaître ce qui a été désastreux de la part de l'Église, il faut aussi reconnaître, rappeler les bonnes choses que l'Église et les nombreuses bonnes choses que l'Église a accomplies au fil des siècles. L'aide apportée aux pauvres, l'aide apportée aux veuves, la transmission du savoir, les écoles, la création des universités, la création des hôpitaux, la lutte contre la traite négrière. Tout cela, c'est l'œuvre de fractions de l'Église, de différentes parties de l'Église. Et ça, c'est positif. Et il ne faut pas que les gens qui critiquent l'Église l'oublient. L'Église a aussi apporté du bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut qu'on prenne à notre compte le commandement que Jésus donne à ses disciples. C'est-à-dire qu'il faut que nous entrions dans notre rôle de passeur, comme Jean-Baptiste, que nous fassions passer les gens de cet état de confusion, d'égarement, de découragement, de les amener jusqu'à la porte du royaume, pour que là, ils rencontrent le seul qui peut changer leur vie. Si vous comprenez que c'est ça notre vocation, alors il y a deux, trois choses que l'exemple de Jean-Baptiste peut nous apprendre, dont nous avons besoin. La première de ces choses, c'est comment transmettre le message. Matthieu nous dit, Jean-Baptiste riait. Bon, il n'y avait pas de sono à cette époque-là. Hein. S'il y a 500 personnes, il faut monter le volume pour se faire entendre dans un lieu ouvert. Donc, il criait, repentez-vous. Mais vous savez ce que je pense? Matthieu, il ne nous donne pas la prédication verbatim de Jean-Baptiste. Il nous dit pas ce que la prédication de Jean-Baptiste était mot pour mot. Il nous donne le contenu. Il nous dit, dans ce que Jean-Baptiste disait, ça voulait dire « repentez-vous, changez de vie ». Parce que vous pouvez pas de but en blanc aller sur la place de la gare à Bienne, monter sur un tabouret et dire aux passants qui sont là, repentez-vous, pécheurs que vous êtes. Les gens vont dire, on va appeler l'ambulance.
Auto jaune.
Pimpon. Non, et je crois que Jean-Baptiste, bon, il avait une crédibilité, donc il y a parfois, quand vous avez beaucoup de crédibilité, vous pouvez aller droit au but. Mais souvent, il faut construire la crédibilité. Il faut que les gens reconnaissent votre crédibilité. Il faut qu'ils reconnaissent en vous qu'il y a l'amour de Dieu est une réalité, que la sainteté de Dieu est une réalité. À ce moment-là, ils écoutent. Ils disent, ouh, là, il y a quelque chose. Mais si ils ne voient pas cela, nos paroles sont du bruit. Et ils ont assez de bruit, donc ils ferment. Ils ferment les écoutilles. Donc il est important de commencer par faire goûter aux gens, à travers notre vie, la réalité du royaume. Quelqu'un a dit une phrase qui est, je trouve, magnifique. Cette personne a dit, c'est dans le fruit que l'esprit produit en nous que se trouve la graine qui peut germer dans le cœur de mon ami. Si vous portez pas le fruit de l'esprit, vous êtes fade. Nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à offrir, les gens du monde peuvent faire mieux que nous. Mais si le fruit de l'esprit est perceptible en nous, il y a ce fruit en nous, il produit une graine qui pourrait bien prendre racine dans le cœur de notre ami. Parce que les fruits de l'esprit, c'est très enviable. C'est très beau. Ça suscite la convoitise. Donc, notre message, la transmission de notre message, qui en fait n'est pas juste de crier, mais notre message, c'est nous sommes le message en tant que personne. Il y a aussi l'endroit où Jean-Baptiste a choisi d'annoncer son message. Il n'est pas en pleine ville de Jérusalem. Il a entraîné les gens loin, vers le Jourdain. C'est une méthode que Dieu connaît bien. Osée 2,16 dit, à propos de Dieu et d'Israël, son épouse infidèle, « Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Il faut trouver des endroits où les gens puissent devenir réceptifs. Il faut des endroits tranquilles. Ça peut être une promenade en forêt, une promenade à la campagne, un repas chez vous, vous invitez les gens à un repas, ou regarder un film ensemble. Il y a une très bonne série, « The Chosen ». Tout ça, ça crée des contextes dans lesquels les gens deviennent réceptifs à la voix de l'Esprit et peuvent être touchés. J'aimerais maintenant vous donner un contre-exemple. Il y a une année, j'étais à Marseille pour une semaine d'évangélisation parmi les Juifs. Et le dernier jour de cette semaine, il y avait Fête de la Musique. Vous connaissez Fête de la Musique, c'est probablement que ça arrive, ça se passe ici aussi à Vienne. On a décidé d'aller dans une place, qui était une place fermée, pas très grande, un peu comme ce que vous avez là, un peu ce type de surface. Fête de la Musique. Il y avait des barbecues qui fumaient de tous les côtés. Je me suis dit, parfois, il fallait faire un peu comme ça, tellement il y avait de fumée. Mais surtout, il y avait les haut-parleurs, parce que c'était la musique. S'il n'y avait pas un orchestre qui jouait, c'était les gens qui, près de leur barbecue, ils mettaient de la musique à fond. Et on était là avec nos petits Nouveaux Testaments en essayant d'approcher les gens. Et je vous dis, je me suis approché de deux jeunes hommes. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Mais franchement, vous voyez pas que c'est la fête de la musique? Qu'est-ce que vous, en quelque sorte, qu'est-ce que vous venez m'embêter avec votre truc? C'est pas le jour. C'est la fête de la musique aujourd'hui. D'autres, je me suis approché de deux jeunes femmes assises. Elles m'ont clairement fait comprendre que pour elles, la vie, c'était sex, drug and rock and roll, comme on dit dans le monde anglophone. Je dis d'accord, ok, vous n'avez jamais réfléchi un peu plus loin. Mais bon, il n'y avait pas de conversion possible. Néanmoins, là au milieu, il y a des gens qui ont accepté. Souvent des étrangers, des Nord-Africains, qui ont accepté cet évangile. On n'a pas pu aller très loin, mais ils sont partis avec l'évangile. Ça veut dire que, comme Paul le dit, toute situation n'est pas idéale. Mais que l'occasion soit favorable ou non, apporte quelque chose aux gens. Il y a un troisième point qui peut nous être utile, c'est le genre de personne que nous devons être. Et Jean-Baptiste, il a adapté son style de vie, son style vestimentaire, son style alimentaire, aux conditions de son ministère. Et parfois, bien, c'est aussi un petit peu ce que nous devons essayer de faire. Parfois, vous adaptez culturellement aux gens, ça vous permet de vous rapprocher d'eux. Voyez, par exemple, ici à Bienne, si vous promenez à Bienne et que vous voyez un homme qui vient du Moyen-Orient avec le keffieh, la coiffure que portent les Saoudiens et puis son grand vêtement, vous dites ah bon ben voilà c'est un touriste, il n'est pas de là, il n'est pas d'ici. Et vous aurez pas tellement envie d'aller discuter avec lui. Pour vous penser, il parle pas ma langue, etc. Bon, bref. Si ce même personnage dit, ah, je vais vivre en Suisse, je vais passer des années ici, il change, il adopte son, il apprend la langue, il adopte son style vestimentaire, il accepte de manger dans les restaurants ici. Il réduit la distance entre lui et vous. Si c'est un évangéliste, vous allez l'accueillir comme quelqu'un qui a du pays. Vous voyez là, vous avez compris, c'est tellement évident. C'est pour ça que Paul dit, avec les Juifs, je me suis comporté comme si j'étais juif. Même si je suis plus sous la loi, mais je respecte leurs scrupules. Avec les gens qui sont sans loi, J'ai pas fait de chichi en disant « Oh, mais ma religion m'interdit de faire ceci. » Non, sauf que j'ai évité de pécher. Avec les gens qui étaient faibles, j'ai respecté leurs scrupules. Parce que mon but, c'était d'en amener quelques-uns, d'en gagner quelques-uns pour Christ. Et comme Jean-Baptiste, on a besoin d'être courageux dans notre message. Vous savez, quand vous parlez de la croix, par exemple, parfois on est comme ça, on est un peu gêné. Est-ce que je vais dire ça? On est gêné parce qu'on a peur de la réaction des gens. Mais ce qui peut désamorcer cette crainte, c'est de dire « Je n'ai pas à obtenir de résultats. » C'est pas mon problème d'obtenir des résultats. Mon problème, c'est juste, de la manière la plus adaptée possible, de faire passer la bonne nouvelle. Et parfois, il faut parler de la croix. Parfois, il faut parler de la nécessité de changer, d'expliquer aux gens qu'ils refusent à Dieu ce qui lui est dû. L'adoration et la foi. C'est ça le péché. C'est ça qui a tout embrouillé, qui a tout détruit, qui a détruit beaucoup de choses. Et donc il faut dire aux gens, enfin, de mille et une manières, que nous ne donnons pas à Dieu son dû. C'est la raison pour laquelle notre vie est souvent misérable et que le jugement de Dieu nous attend, mais qu'il est possible de corriger ça. Que nous, si nous donnons à Dieu l'adoration qui lui revient et la foi qu'il attend de nous. Alors, je dois terminer parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais peut-être un peu trop longtemps. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont franchement égarés. Ils ne savent plus où est le haut et le bas, où est à la droite et la gauche. Ils ne savent plus moralement. Je donne une anecdote. Hein. J'ai un ami avec lequel on prie régulièrement pour l'évangélisation à Genève. Il voulait faire une promo pour un temps de prière et d'évangélisation. Puis il est allé dans la rue avec des jeunes qu'il voulait filmer. Et puis, mais il voulait que ce soit au milieu de la foule. Puis il y avait trois jeunes qu'il voyait de dos. Puis il s'est approché d'eux pour leur demander si c'était OK de filmer pendant qu'ils étaient là. Et avant qu'il arrive auprès des jeunes, donc il y avait un jeune homme au début au centre et deux filles de chaque côté. Les filles, elles font comme ça, elles se reculent et elles s'embrassent sur la bouche. Et mon ami dit « Oups, qu'est-ce que c'est ?» Et puis ils discutent avec ces jeunes et ils disent « Non, non, pas de problème. Ouais, la religion... » Et il s'est rendu compte. Ces gens sont sans repère. Mais si on leur en donne, ils pourraient bien être preneurs. Mais il faut leur communiquer de manière qu'ils soient perceptibles, réceptifs ou recevables pour eux. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. On a un fantastique message. Le royaume de Dieu est là. La maison de Dieu est ouverte pour vous. C'est magnifique comme message. C'est pas un message rabat-joie, c'est un message plein de joie, plein d'espérance. Et c'est ce que je voudrais vous laisser ce matin. Si j'étais devant un groupe de jeunes, je dirais, est-ce que certains d'entre vous voudraient qu'on prie pour lui ou pour elle, afin que Dieu vous montre le chemin dans lequel il vous appelle. Mais vous êtes des vétérans, donc vous êtes déjà sur le chemin. Il faut continuer sur le chemin et prier beaucoup pour les jeunes. C'est un désastre. Moralement, c'est un désastre pour beaucoup. Comme Ninive. Mais si vous priez, si vous donnez une parole gracieuse, les gens, ils s'en souviendront. Amen. Je vous laisse un moment de silence pour digérer et si certains d'entre vous souhaitent prier, que ce soit une expression libre de votre cœur.